Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. René de Obaldia.
Je fais beaucoup rire. Il y a une certaine gaieté, mais je crois que pour moi, d'abord je ne fais pas ça fait exprès, l'humour est une chose qui m'a toujours habité, mais je vous dirais que c'est pour échapper au désespoir que j'ai en moi devant le spectacle du monde.
Ça peut pas faire de mal.
C'est-à-dire que ce rire est pour moi un rire libérateur, comme certains rires, mais que profondément, alors j'en reprends là un autre espagnol, Miguel de Unamuno, que j'ai en moi le sentiment tragique de la vie. Et de deux choses l'une, à partir de ce moment-là, où on se flingue, m'excuse, mais c'est insupportable, ou bien on essaie de trouver une défense.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Dès mon plus jeune âge, je me suis interrogé sur la manière dont la dame à la faux viendrait à ma rencontre. Par quel détour, quel stratagème, au cours de quel rendez-vous galant, la dame enveloppée de sa vaste houppelande de nuit me lancera-t-elle de ses orbites creuses une œillade ? Maladie ? Accident ? Suicide ? 1000 scénarios me traversent l'esprit. Et si je mourais de ma belle mort ? Si tout simplement je m'éteignais ? Imaginons. Tout va très vite. Je m'allège. Comme si j'étais aspiré par le haut. La mer s'est retirée à l'autre bout du monde. D'où vient cette lumière qui n'est pas d'ici, qui gagne en intensité? J'entends la voix d'Ève, la femme à mes côtés, voix d'un monde aboli, souffler. Cette fois, c'est la fin. Mon cœur bondit d'allégresse dans ma poitrine. Une excitation inouïe s'empare de moi. Je vais faire la connaissance de mon ange gardien. Si je pouvais parler... Ma chérie, j'ai rendez-vous avec mon ange gardien. Suis-je présentable? Tu devrais boutonner le col de mon pyjama, me donner un coup de peigne. Ève prend sur elle de ne pas fondre en larmes. Elle se penche sur moi, caresse mon front et, machinalement, boutonne le haut de mon pyjama. Lumière. Quintessence de lumière. Un paysage tout neuf se découvre à mes yeux. Une prairie étincelante, émaillée à profusion de pâquerettes, de boutons d'or, de violettes, de primes vertes. Une énorme bonté. Je déborde d'une énergie cosmique. Je reprends possession de mon corps, un corps de 33 ans. Me voici dans la prairie. Je foule le sol céleste. Des papillons aux couleurs de vitraux butinent les fleurs. Une odeur de lys emplit le silence. Quelle beauté! Une beauté à vous couper le souffle. Je marche lentement. Lentement émerveillée. Non, non, Ève, ne me retiens pas. Détache tes bras de ma taille, ta bouche de ma bouche. Du fond du temps, quelqu'un vient à ma rencontre. Présence encore invisible, mais un souffle léger, son haleine, fait s'incliner les boutons d'or. Suis-je présentable? Suis-je digne de... Je m'arrête, saisi d'une crainte et d'une joie inexprimable. Soudain, délicieuse brûlure, un rossignol se pose sur mon épaule, le rossignol de la gloire. C'est avec ces mots que René de Obaldia, romancier, poète, académicien et dramaturge, imaginait sa fin et concluait sa savoureuse exobiographie, parue en 1992 chez Grasset. Né à Hong Kong en 1918 d'un père consul du Panama et d'une mère française, René de Obaldia, à qui l'on promettait 48 heures de vie, tant sa santé semblait fragile, fêtait en octobre dernier ses 100 ans. Je le salue respectueusement et je dédie cette émission à la mémoire de son ami et qui était aussi mon parrain, José Liopis.
Le fait de naître comme ça en Chine, je suis né en Chine, d'un père panaméen, d'une mère française, m'a toujours donné une sorte de sentiment, je vous dirais, d'étrangeté, c'est le mot qu'on puisse dire, étranger à ma propre existence.
À 23 ans, il est incorporé dans l'armée française et bientôt détenu par les Allemands pendant 4 ans. Cette expérience précoce de la cruauté le porte à s'interroger tout au long de sa vie sur la condition humaine. C'est à la Libération qu'il prend la plume en tant que parolier pour Luis Mariano avant de collaborer à diverses revues littéraires. Mais son talent se déploie bientôt à travers le roman, la poésie et bien entendu le théâtre qui lui vaut d'être connu dans le monde entier. René de Obaldia regarde le monde avec un perpétuel sentiment d'étonnement et une certaine inquiétude. Face à la tragédie de l'existence, son univers balance entre la farce et la métaphysique. Mais c'est l'humour qui a souvent le dernier mot. Un humour salvateur qui flirte avec l'absurde. Puisque le monde est fou, rions-en, nous suggère-t-il. Mais entamons cet hommage par le genre qui le rendit célèbre, le théâtre. Commençons ce voyage dans l'univers de René de Obaldia avec l'une de ses premières œuvres théâtrales, un impromptu intitulé « L'Azote ». Écrite dans un accès d'humeur, cette courte pièce s'attaque avec férocité et beaucoup d'humour aux archétypes de la virilité et de la féminité, ainsi qu'à l'absurdité de la guerre. Dans la scène que nous allons découvrir, nous assistons aux retrouvailles entre le soldat Casimir et sa fiancée Justine, danseuse au bikini bar. Casimir apparaît la poitrine ruisselante de décoration et Justine succombe illico à cette caricature héroïque. Mais le soldat, de retour après 3 ans de guerre sans répit, n'est pas tout à fait en phase avec sa dulcinée. Le décor figure une modeste salle à manger, à droite un grand lit et sur le devant de la scène une énorme paire de chaussures. Casimir s'est assis sur une chaise. Justine se mettant au pied de Casimir.
Casi,
oui,
je suis fière de te choisir pour époux.
Oui, tu es beau, tu es grand, tu es généreux.
Oui, tous les hommes que je me suis envoyés, je le reconnais maintenant, c'était des foutriquets, des lavettes, des intellectuels.
Oui,
remarque, je regrette pas. Hein. Comme dit Toto, faut être en situation pour savoir.
Oui, le colonel Grappin dit ça aussi.
C'était encore lui le plus marrant, pas le colonel, hein, mais Toto. Il voulait toujours que j'amène une copine avec moi, Charlotte ou bien Zizi. Au moins, le matin, c'était pas toujours moi qui faisais le café. Mais toi, je veux bien te servir, t'apporter des sardines au cresson pour ton petit déjeuner. Tu aimes les sardines au cresson?
Oui.
Eh bien, je t'en ferai. Tu seras vachement heureux. Ce qu'il faut, quand on sera marié, c'est pas sombrer dans l'onanisme. Surtout l'onanisme à deux.
Oui.
On sortira. On ira à toutes les parties, à tous les by night, tous les snacks, tous les God Save the Queen, et on se paiera une Jaguar en nylon.
Oui.
Et puis tu sais, j'empêcherai jamais ta vocation. Tu pourras toujours faire tac 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 quand tu voudras. Tu veux?
Oui.
Oh Casimir, le monde c'est du cinémascope sur une idée de Marco Polo.
Oui, bien sûr.
Entends-tu, Casimir, les tambours prénuptiaux de nos tropiques intimes? Sens-tu l'haleine des moutons qui frémit dans le bêlement de notre devenir?
Ça sent une drôle d'odeur ici.
Sont tes pieds?
J'en ai allongé quelques-uns dans les marais pour beaucoup moins. Toucher aux pieds de l'armée, c'est toucher à sa tête. Et toucher à sa tête, c'est toucher à son cœur. Et toucher à son cœur, écossaise, sale petite écossaise.
Casimir,
tiens-tu vraiment à ce qu'on te passe à la friture d'électrode? À ce qu'on te branche un sein sur l'horloge parlante?
Casimir, je t'appartiens, je ferai tout ce que tu veux, je suis ta chose, ton foyer militaire.
Veux-tu qu'on te nettoie à la grenade lacrymogène?
Oui, Casimir, si tu y tiens.
Veux-tu que je te fasse livrer une baignoire à domicile?
Ah, tu vois, tu penses déjà à notre ménage.
Ou préfères-tu que les Sénégalais te passent dessus en jouant le pont de la rivière Kouai?
Oh oui!
Quittons la scène pour la vie réelle. Dans Exobiographie, la guerre inspire aux mémorialistes des pages plus sombres.
J'ai passé 4 ans dans des commandos de discipline en Allemagne, n'est-ce pas, pendant cette dernière guerre de 40. J'ai eu 4 ans de cette vie assez invraisemblable, assez irréelle.
Écoutons le saisissant récit d'un poète sur un champ de bataille. Nous sommes en mai 1940 dans le nord de la France. Le soldat Obaldia, alors âgé de 23 ans, fait partie de quelques troupes alliées envoyées pour tenter de ralentir l'avancée allemande, mais bien vite débordée. Peu de temps après, l'auteur tombera aux mains des Allemands et sera envoyé pendant 4 ans dans un stalag. Mais pour l'heure, vivons avec lui cet épisode qui marque le début d'un long cauchemar et dont il se libère peut-être par l'écriture. Tôt le matin, alors que nous approchons d'un village, nous ne sommes plus qu'à une cinquantaine de mètres des premières maisons, nous sommes accueillis par des rafales d'armes automatiques. Des balles traçantes sifflent à nos oreilles et trouent l'espace de joyeux traits lumineux. Sitôt plaqués au sol, nous tirons devant nous. Nous tirons, cédant à nos réflexes, à une extrême nervosité. L'ennemi est invisible. Ah, nous ne sommes pas des soldats aguerris. Le feu adverse s'intensifie. Feu d'artifice, des balles traçantes, mitraillettes qui crachent à un rythme rapide. Nous sommes là, cloués, à découvert. Le fusil pointé en direction de jeunes gens, insaisissables, qui cherchent notre mort. Je songe à la grange que nous avons dépassée il y a peu, avec l'illusion qu'elle pourrait nous servir de refuge.
Mais il est hors de question de revenir en arrière, de gagner le bâtiment. Nous serions tirés comme des lapins. Le lieutenant Marconnet, embusqué derrière un talus, nous exhorte à ne pas gaspiller nos munitions. Certains rampent à la recherche d'un endroit moins exposé. Un creux, un tas de pierres protecteurs. Ce champ est désespérément plein. Où je me trouve, je n'ai d'autre recours que de m'enfoncer le plus possible, de faire corps avec la Terre entière et de graviter avec elle et les autres planètes dans l'espace infini. Probablement planqués dans un fossé, les Allemands continuent de nous canarder. Malgré la recommandation de notre commandant, beaucoup d'entre nous ne peuvent s'empêcher de tirer sporadiquement, de riposter, de déranger les ombres. Un grand cri derrière moi suivi aussitôt de gémissements entrecoupés de sanglots. Un camarade vient d'être touché, le Goff, du Verger. Au moment où je me retourne, une pluie de balles m'interdit tout mouvement, puis l'accalmie. 2 minutes, 3 minutes d'un silence qui n'en finit pas. Les gémissements du blessé se font de plus en plus faibles. On croirait un enfant en détresse qui, d'une voix étouffée, appelle sa mère. La mère, à des milliers d'années de lumière, repose une fois de plus la photo de son fils sur la cheminée. Chaque fois, elle essuie le verre avec un coin de son tablier. Un beau petit gars, physique de cinéma et tout l'avenir devant lui. Le silence se prolonge, exaspérant. Je suis saisi d'un profond sentiment d'irréalité. Est-ce cela qui me rend calme? Si calme, comme dédoublé, comme si ces événements invraisemblables ne me concernaient pas. Qu'ai-je du commun avec ce jeune homme plaqué au sol, retenant son souffle et qui peut-être va mourir? Il me vient à l'esprit que ce champ auquel je suis accolé est un champ d'honneur. Alors qu'une grêle de balles continue de pleuvoir, je souris au bonheur de l'expression et me surprends à murmurer « Soldat Obaldia du 41e régiment d'infanterie tombé au champ d'honneur ». Champ de trèfle, de luzerne, d'ortie, d'herbe folle, de pissenlit, de mulot, pissenlit d'honneur, mulot d'honneur. C'est alors que de l'angle de la rue débouche un tank frappé de la croix noire, énorme bête à carapace métallique qui fait route à grand fracas pour venir s'immobiliser à la lisière du champ. Malgré moi, mon cœur cesse de battre une seconde en même temps que je ressens l'incongruité de cette intrusion, de ce viol. Engin de destruction complètement déplacé dans ce cadre bucolique, le tank signe-t-il mon arrêt de mort? Des images défilent à toute vitesse. Une scène avec ma mère, le moment où je faillis me noyer sur une plage bretonne, Madame Hack flairant une meute de beurre, le magasin où j'achète un imperméable, un visage apparu dans le métro. N'avais-je pas entendu dire que, lors d'une disparition brutale, toute notre existence repassait devant soi, tel un film en quelques secondes? Enfin, je songe. Le tank est toujours immobilisé, mais sa tourelle vire avec son canon. Je songe, et cette pensée prend toute la place à la femme qui vient d'entrer dans ma vie. Est-elle réveillée? Lit-elle le journal à la cuisine devant sa tasse de café? Lors de ma dernière permission, au moment de nous quitter, elle sur le quai de la gare, moi encore à la portière, tandis que le train s'ébranlait, « Je t'aime tant qu'il ne peut rien t'arriver », me disait-elle en contenant ses larmes. Une violente déflagration nous fait sursauter. L'obus tiré vient d'atteindre la grange de plein fouet. Des camarades s'enfuient alors à travers champs. Ce sera leur perte. Spectateur incrédule, je demeure ancré à ma place. Je fais le mort. L'absurdité connaît-elle un commencement et une fin? Quelques jours plus tard, nous tomberons exténués, obsolètes, aux mains d'un ennemi puissant et multiplié.
Cette histoire de carence qui vous tombe dessus quand vous avez 20 ans, 21 ans, et que ensuite, je suis devant vous, j'en ai réchappé, j'étais quand même en prisonnier de guerre, n'est-ce pas?
En Pologne, oui.
En Pologne, exactement, oui.
Ça apprend quoi?
Ça apprend ce que c'est que l'homme.
Parce que j'ai vu l'homme à nu, j'ai vu l'homme qui n'avait pas d'avoir, qui n'était que l'être. Nous n'avions rien, il n'y avait plus d'avoir, il n'y avait que l'être. Et donc j'ai pu voir l'être, et c'est une chose à la fois consternante et éblouissante.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
À tous les enfants qui sont partis le sac au dos par un matin brumeux d'avril, je voudrais faire un monument. À tous les enfants qui ont pleuré le sac au dos, les yeux baissés sur leur chagrin, je voudrais faire un monument. Pas de pierre, pas de béton ni de bronze qui devient vert sous la morsure aiguë du temps. un monument de leur souffrance, un monument de leur terreur, aussi de leur étonnement. Voilà le monde parfumé, plein de rires, plein d'oiseaux bleus, soudain griffé d'un coup de feu, un monde neuf où sur un corps qui va tomber grandit une tache de sang. Mais à tous ceux qui sont restés les pieds au chaud sous leur bureau en calculant le rendement de la guerre qu'ils ont voulu, à tous les gras, tous les cocus qui vantent ripotent dans la vie et comptent leurs écus, à tous ceux-là, je dresserai le monument qui leur convient, avec la schlag, avec le fouet, avec mes pieds, avec mes poings, avec des mots qui colleront sur leurs faux plis, sur leurs bajoux, des marques de honte et de boue.
Continuant à travers les pages de sa captivante autobiographie, à l'heure où il écrit ses lignes, Obaldia a 75 ans. Parfois, l'absurde destructivité humaine l'accable au point de lui faire perdre les mots et son incomparable sens de l'humour. Il s'en ouvre dans ce chapitre intitulé « Nulla dies sine linea », pas un jour sans une ligne, devise d'Émile Zola. Période de stérilité, des jours sans écrire une seule ligne, frappé d'impuissance tant je suis accablé par les calamités qui s'abattent sur notre planète. Accablé, un goût de cendre dans la bouche. L'écriture, au regard de l'univers de cauchemar que nous révèlent chaque jour les informations, notre pain quotidien, Seigneur, me paraît une entreprise dérisoire à la limite de l'obscénité. L'histoire écrit plus vite que moi, et elle dépasse en absurdité, incongruité, atrocité les imaginations les plus vives. Ubu règne en maître d'est en ouest et du nord au sud. Les fléaux naturels, épidémies, famines, tremblements de terre, typhons, inondations ne suffisent pas au malheur des hommes. Il leur faut ajouter la haine. Haine de leurs semblables. Haine de soi. Se livrer aux guerres, aux massacres, aux exterminations, aux tortures sous le couvert des plus nobles causes. Saccage, pillage, pollution, pollution de la nature, pollution des esprits, barbarie industrielle, course à l'argent, au néant et les inventions scientifiques fabuleuses, trop souvent au service du pire. L'homme est devenu inférieur à ses œuvres. Télévision, la prime à l'infantilisme, le démon est légion. Le moindre crétin qui apparaît sur le petit écran est multiplié à l'infini. La bêtise triomphante m'enveloppe dans une chape de plomb. Offrons-nous une récréation avec un extrait d'Innocentine, recueil de 70 poèmes pour enfants et quelques adultes, paru en 1969. Dans ce recueil auquel il est très attaché, Obaldia s'est efforcé de se mettre au niveau des enfants en se plaçant de leur point de vue. Beaucoup d'entre eux ont été repris dans des manuels scolaires à son grand bonheur. Ici, l'écrivain célèbre leurs rêves. Inépuisable source d'inspiration pour l'homme, si souvent tenté de poser sa main sur l'épaule d'un nuage. Le secret. Sur le chemin près du bois, j'ai trouvé tout un trésor. Une coquille de noix, une sauterelle en or, un arc-en-ciel qui était mort. À personne, je n'ai rien dit. Dans ma main, je les ai pris et je l'ai tenu fermé jusqu'à l'étrangler, du lundi au samedi. Le dimanche, je l'ai rouverte, mais il n'y avait plus rien. J'ai raconté au chien, couché dans sa niche verte, comme j'avais du chagrin. Il m'a dit sans aboyer, « Cette nuit, tu vas rêver. » La nuit, il faisait si noir que j'ai cru à une histoire et que tout était perdu. Mais d'un seul coup, j'ai bien vu un navire dans le ciel, traîné par une sauterelle sur des vagues d'arc-en-ciel. Prolongeons notre immersion dans l'univers des rêves en feuilletant le premier grand roman d'Obaldia, Tamerlan des cœurs. Nous l'avons vu, c'est le combat de la fantaisie contre la brutalité qui est à l'œuvre chez l'auteur. Dans ce roman paru en 1954, il met justement en scène un personnage qui veut tout ignorer de la violence du monde, mais qui sera finalement rattrapé par l'histoire. Dans le passage qui suit, son héros, Jaime Salvador, séducteur latin et bourreau des cœurs, peine à s'extraire du sommeil, préférant sans doute l'imaginaire à la réalité. Mais songe et réel finissent par s'entremêler dans un joyeux désordre. Obaldia, disait Maurice Nadeau, descend profondément dans l'inconscient de chacun pour retrouver les grandes images qui nous habitent. Assistons justement à l'une des rêveries du personnage.
Je prendrais bien un café crème avec des croissants, pensa Jaime en se retournant dans son lit. Puis il se rendormit. Deux coups de sonnette le réveillèrent. La concierge, n'obtenant pas de réponse, glissa comme à l'habitude les lettres sous la porte. Il devait être au moins 9 heures. Jaime chassa de son esprit un arbre qui avait poussé en lui durant son sommeil et au pied duquel s'abritait un homme revêtu d'une armure. Qui pouvait lui écrire ? Gisèle, certainement. Jaime tira la couverture sur son visage et se rendormit. L'homme à l'armure réapparut. Jaime lui commanda un café crème avec des croissants. « Bien chaud, s'il vous plaît. Vous ne risquez pas de vous brûler les doigts habillés comme vous l'êtes. » L'air se chargea d'électricité. Un vent venu, l'on ne sait d'où, se mit à souffler sur toute l'étendue du paysage. Quelques branches craquèrent. Une feuille se détacha, tourbillonna un moment dans le ciel, puis s'aplatit sur le sol en poussant un gémissement de femme. L'orage n'allait pas tarder d'éclater. « Un instant !» cria Jaime au chevalier. Mais oui, c'était bel et bien un chevalier. « Un instant, habillé comme vous l'êtes, vous me servirez de paratonnerre. Restez donc ici. » À peine avait-il prononcé ces paroles que l'homme se saisit d'une épée apportée par la foudre et s'avança vers Jaime. Jaime se réveilla une nouvelle fois. « Voilà, voilà !» lança-t-il à la concierge. Mais Madame Poussotte se trouvait maintenant dans sa loge et lisait un journal qui confirmait d'une manière éclatante les idées de Madame Poussotte. Tout de même, il existait des gens intelligents sur cette terre. Et honnêtes.
Vous écrivez pour le divertissement du public ?
Toute œuvre, qu'elle soit comique ou dramatique, doit être une exaltation. Qu'elle ne doit pas être un pinsum, j'en reviens à cette notion de pinsum, qu'elle doit alléger, qu'il y a acte d'allégeance dans tout acte de création, qu'elle soit dramatique ou comique. Et bien sûr, j'aimerais que le public, lorsqu'il voit un spectacle ou quand il voit certaines de mes pièces, ressort de là un petit peu modifié, et en tout cas qu'il y ait pris un certain plaisir. La notion de plaisir est une notion très importante. Je ne vois pas pourquoi de nos jours, souvent, c'est une notion qui est presque suspecte. Il semblerait que à partir d'une notion de plaisir, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose de très léger, précisément. Et que plus que tout ce qui est emmerdant, permettez-moi ce mot, devient profond. Je ne vois pas pourquoi, personnellement.
Ouvrons un autre de ses romans, « La passion d'Émile ». Dans ce récit paru en 1998, René de Obaldia explore l'angoisse existentielle d'un homme face à la paternité. Émile, employé des assurances, a horreur des imprévus et se trouve bouleversé par la grossesse de sa femme, Angélique. Lorsque Baptiste naît, son angoisse atteint des sommets. Il perd l'appétit et ressemble bientôt à un squelette ou à un fantôme. Délaissé par son épouse, comme dévoré par la place que prend l'enfant dans sa vie, il sombre dans un délire proche de la paranoïa. Dans l'extrait qui suit, Émile quitte son domicile au prétexte d'aller chercher des allumettes pour échapper à une réunion familiale qui le met au supplice. Suivons-le au fil de sa déambulation solitaire, gagnée par une folie qui flirte avec le surréalisme. Il errait dans les rues à sa propre recherche. Fréquemment, les passants butaient dans lui et s'exclamaient « Oh pardon, je ne vous avais pas vu !» Une étrange sensation de transparence l'envahissait. « Je ne suis tout de même pas une vitre », se répétait Émile. Il aurait volontiers commis un meurtre, rien que pour se prouver à lui-même son existence. Il s'exaltait. Notre signature la plus authentique ne pouvait être qu'un assassinat. Emporté par son délire, il marchait. Les murs avaient la fièvre et marchaient avec lui. Une fois, une boucherie l'avait escorté un long moment. Pendant des kilomètres, il avait retenu son souffle le long des murailles de viande. S'il se mettait à pleuvoir, Émile n'ouvrait plus son parapluie et riait d'un rire dément. Ah, « La pluie va se faire mal en tombant sur mes os », songeait-il. La ville toute lui adressait des signes de violence. L'arête du trottoir luisait intensément, aiguisée comme un fil de rasoir. Un feu rouge poignardait le brouillard. Aussitôt, un enfant tombait à genoux. Son sang coulait dans le ruisseau. Et de toutes les mères qui passaient, aucune n'était la sienne. Le néon des réclames lumineuses sifflait à la manière des serpents. Sous les portes cochères, des hommes et des femmes subissaient des supplices. Les chiens léchaient des affiches blessées. Une marchande de poissons vendait l'océan. Les monstres des profondeurs marines gagnaient la surface. Leur souffle puant s'exhalait des bouches du métro. Leurs nageoires vives crevaient la peau de la terre. Un pneu de voiture éclatait. La matraque des agents, les quarts de police secours éclaboussés de sons stridents ne pouvaient rien contre l'horreur, contre la solitude multipliée. Les pierres tremblaient. C'était l'heure où les mannequins des vitrines, si semblables à Émile, descendaient dans la rue avec leurs mains de cire prêtes à l'étrangler. Pour la millième fois, un passant le heurtait. Bien que son aspect extérieur n'en laissât rien paraître, Émile s'avançait vers le royaume de la folie.
chante-moi encore la même mélodie sur les deux accords que je t'ai appris, la chanson des jours bénis, des paroles en l'air, des mensonges impunis, les coups de tonnerre, et voilà que j'oublie la chanson des jours bénis. Avant que l'on se dise adieu, avant que l'on choisisse deux chemins, déserts, avant que l'on tourne le pas, que l'on tourne le pas. Chante-moi encore la même mélodie, la chanson des morts ou des jours bénis. Je ne sais plus très bien aujourd'hui. Je ne sais plus très bien aujourd'hui.
Mais changeons de ton avec sa célèbre parodie de western, Du vent dans les branches de Sassafras, créée à Paris en 1965 et bientôt jouée sous toutes les latitudes.
Lorsqu'on a voulu donner le rôle du patriarche de ma pièce, Je n'aimerai Rockefeller, on a pensé à Michel Simon, mais il y avait 7 ans qu'on n'avait pas entendu parler de Michel Simon, et on a retrouvé sa trace en Suisse. Il était à Genève. On lui envoie le manuscrit du Vent dans les branches de Sassafras, et j'ai la chance de recevoir 5-6 jours après une lettre dithyrambique en disant que c'était une pièce, il donnerait n'importe quoi pour jouer ce rôle. Il a demandé fort cher d'ailleurs, n'est-ce pas? Et puis alors, il perdait la mémoire et il m'explique alors une chose extraordinaire. Il me prend dans un coin, il imputait cette déficience à une teinture de cheveux qu'il aurait subie pendant un tournage de film. Alors, il me prend à part et il dit « c'est cette teinture qui m'a grignoté le cervelet, qui m'a grignoté le cervelet ». Alors, je dis « bon, voilà ». Alors, il arrivait aussi que parfois, non seulement il y avait des trous de mémoire, mais il donnait des répliques qui n'étaient pas de ma pièce. Mais enfin, on arrive quand même à reculer et à voir la couturière, ce qu'on appelle « salle pleine ». Salle pleine, c'était de nouveau la réapparition de Michel Simon. Et alors, il arrive à faire le parcours du combattant. Quand il ne savait plus très bien son texte, il tirait son revolver, il sortait son revolver, donnait des coups de feu en l'air, comme ça. Enfin, son énorme présence suppléait au rétrécissement du texte.
Nous sommes ici au début du 19e siècle, chez les Rockefeller, des colons misérables fixés dans le Kentucky. John Emery, sa femme et ses 2 enfants. Les personnages sont frustres. Ils n'ont été qu'à l'école du bétail, des apaches, des bordels et des tueurs professionnels, comme le précise l'auteur. John Emery, le patriarche, est un vieux dur à cuire, au sang chaud. Âgé de 17 ans, sa fille Pamela est une beauté sauvage, en mal de liberté, qui rêve de partir pour la ville de Poncho City. Mais son père veille jalousement sur elle. Pamela pousse un énorme soupir. John Emery. « Et toi, Pamela, qu'est-ce que t'as à soupirer comme un soufflet de forge ? Tu n'es pas bien ici, des fois ? Si tu crois que c'est marrant, c'est peut-être pas marrant, vu que la région est infestée d'un drôle de gibier, des gangsters, des soulards, des peaux rouges. C'est peut-être pas marrant, je dis pas, mais c'est honorable. Honorable ? Un coin perdu, un désert, un trou que le diable n'en voudrait même pas pour enterrer sa grand-mère. Parle pas du diable et de sa famille dans des termes inconsidérés. l'eau à 600 mètres. On en revient les pieds en sang avec des épines dans la plante qui vous réveillent la nuit. Des rapides et on ne peut même pas se baigner. Des précipices remplis de têtes de mort qui bouillonnent. Une forêt où je peux même pas aller me promener toute seule. Parler aux oiseaux-chats. Ça, je t'interdis de parler aux oiseaux-chats. Je te l'ai interdit, je continuerai à te l'interdire jusqu'à ta majorité. Souviens-toi la fois où tu es parti avec ta robe neuve, ta combinaison neuve, et que t'es revenu seulement couvert d'une feuille de sassafras, des marques sur tout le corps. C'est la vie au moins, ça. C'est la vie. Te monte pas les méninges, fillette. La vie, la vie. Et pourquoi que de temps en temps, j'irai pas à Pancho City? Lourd silence. Comme Sarah, comme Dorothy, comme Mildred. Pancho City. Oui. Manger des glaces à la vanille avec les copines ou aux framboises. Danser avec le pasteur. Le pasteur à Pancho City. Veux-tu que je te dise ce que c'est pour moi, Pancho City? Veux-tu que je te dise? Un bordel. Ouais, là où il y a plus de 12 maisons ensemble, c'est un bordel. Ça s'appelle pas autrement. Et je veux pas que ma fille rentre au bordel. Pas tout de suite. Eh bien pour moi, veux-tu que je te dise? Vous tous, autant que vous êtes, n'êtes qu'une bande de demeurés. Des demeurés, de demeurés, abrutis par des préjugés stupides. Vous allez contre l'évolution de l'espèce, l'émancipation de la femme, le droit à disposer de soi-même, la résurrection des corps. Vous voulez toujours qu'on profite de la vie une fois qu'elle est passée. Tais-toi donc, Pamela, tu vas trop loin. De quel droit je me tairai? J'ai ma jeunesse pour moi. Et un jour, la jeunesse, elle vous enterrera tous. Elle envahira le monde et vous aurez honte de n'avoir jamais connu la vôtre. D'avoir toujours vécu en vous économisant comme de vieux bouts de chandelle. Dans 100 ans, on rigolera de vous. Peut-être même avant. Moi, je suis née trop tôt. Je sens bien que je suis née trop tôt. Mes idées, elles galopent. Elles sont en avance sur mon temps. Je serai seulement comprise après ma mort. C'est affreux. C'est affreux. Revenons à Obadiah lui-même et faisons un détour par l'enfance à la découverte d'un lointain souvenir de spectateur, à l'origine peut-être de sa vocation d'auteur dramatique. Un chapitre de ses mémoires relate le plaisir incroyable qu'il a éprouvé enfant en allant au cirque municipal d'Amiens. Il ne s'agit pas de théâtre à proprement parler, c'est toute l'effervescence joyeuse du spectacle vivant qu'il découvre. Nous sommes au début des années 20. Écoutons-le revivre l'émotion de ses 6 ans face à l'apparition de l'homme le plus fort du monde. Le cirque d'Amiens, somptueux édifice imaginé par Jules Verne, enfermait rêves et prodiges. C'était le temple des panthères, des ours, des éléphants, des clowns, des trapézistes, des illusionnistes, réservoir de nains, dortoir de la femme canon. C'est là, un jeudi après-midi, que je vis Rigoulot. Charles Rigoulot. L'homme le plus fort du monde. Le cirque se trouvait plein à craquer. Une atmosphère électrique, surchauffée, régnait dans l'enceinte. Aux puissantes odeurs de fauve se mêlaient des bouffées d'acide et de parfums vulgaires. J'écarquillais les yeux devant les tigres royaux bondissant à l'intérieur de cercles enflammés, devant les trapézistes qui s'accrochaient au vide. Je baillais d'admiration à la vue de la femme coupée en morceaux, une belle jeune femme court vêtue et qui revenait saluée, souriante, bien plus grande une fois recollée. Mais j'attendais avec impatience le clou du spectacle, l'homme le plus fort du monde. À quel prix avait-il remporté ce titre fabuleux? Comment cela avait-il commencé? Dans les langes? En se livrant à des sauts périlleux sur son berceau? En avalant tous ses hochets? En étranglant sa petite sœur? Avait-il tété du lait de louve? Soutenu par un tonnerre de tambours, de trompettes et d'applaudissements, il apparut dans un halo de lumière. L'homme le plus fort du monde. L'Hercule, se tournant successivement aux 4 points cardinaux, fit jouer ses muscles. Biceps, triceps, dorsaux, pectoraux, abdominaux, trapèzes, deltoïdes et encore d'autres muscles inconnus jusqu'alors. Quand il eut terminé d'exhiber son anatomie, deux individus apportèrent des chaînes. Rigoulot croisa les mains sur sa poitrine et se laissa enchaîner. Un puissant projecteur l'éclaira. Les deux hommes n'y allaient pas de main morte. Les chaînes serrées au maximum comprimaient de plus en plus le thorax. Le métal entrait dans la chair vive. Un énorme cadenas fermé par un spectateur verrouilla le tout. Et maintenant, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Herr und Frau, gentili signore et signori, tenez-vous bien.
Charles Rigoulot, grâce à ses poumons d'acier et par la seule puissance de son souffle, va briser les chaînes qui oppriment sa poitrine. Monsieur Rigoulot, êtes-vous prêt ? Monsieur Rigoulot acquiesça du chef. Aussitôt se déclencha un bref roulement de tambour, le silence gagna l'assistance. Voici que sous l'effet de l'inspiration, la poitrine bardée de fer se dilate. Inspiration lente, continue. On eût dit que l'homme le plus fort du monde voulait aspirer le cirque, l'avaler tout entier par les narines. Avec ses hommes, ses femmes, ses enfants, ses animaux, inspiration inouïe, le torse prend une teinte violacée. Il augmente encore de volume, le métal attaque l'épiderme, la tête tourne à l'écarlate, devient un coquelicot. Le cou se gonfle, c'est maintenant un coup de taureau. L'artère carotide bat furieusement. Les 2700 spectateurs retiennent leur souffle, figés, fascinés, jusqu'au moment où, voilà, d'un seul coup, les chaînes volent dans la sûre, tandis qu'on entend un sifflement aigu comparable à celui du gaz qui s'échapperait d'un bec benzène. La violente expiration que livre la cage thoracique du héros. Hurrah ! Rugissement, crépitement des bravos, orchestre en furie et lâcher de colombe. J'étais au comble de la joie. Poursuivons notre exploration du théâtre obalien avec une piquante scène de la vie conjugale, extraite de L'ère du large. Comme le dit le dramaturge, qu'importe le sérieux pourvu qu'on ait les mouettes. Dans cette pièce, pour deux acteurs, créée en Argentine en 1962, nous sommes en compagnie de Basile, 40 ans, chercheur sur les isotopes, et d'Evelyne, une midinette de 20 ans. Les tourtereaux, mariés depuis un mois, mais sans argent, sont contraints de camper, littéralement, dans le salon de la belle-mère. Mais la cohabitation se révèle vite pesante, ce qui fait naître quelques tensions entre les amoureux. Tandis que Basile, sous sa tente au beau milieu du salon, tape frénétiquement à la machine le rapport qu'il doit terminer, Evelyne, étendue sur le divan, feuillette des magazines. Evelyne, ne tape pas trop fort, tu sais que maman a les nerfs à vif, elle ne peut supporter le bruit. Basile, sortant de sa tente en short, très excité. Ah, ne me parle pas de ta mère. Ne sois pas ingrat, mon chéri. Ne monte pas toujours sur tes grands chevaux quand je fais allusion à la personne qui m'a donné le jour. Maman a ses faiblesses, comme tout un chacun. Mais où serions-nous allés si elle ne nous avait pas sous-loué très gentiment ce petit coin de terrain ? Tu ne peux pas nier. Oui, cela, on ne peut pas nier. Nous avons un toit. Tu pourras toujours courir pour trouver des gens qui acceptent que l'on campe comme ça à n'importe quelle heure en plein cœur de leur appartement. Des gens ? Des gens ? C'est ta mère, la sœur de ton oncle, la fille de ta grand-mère, des gens. Elle aurait pu, étant donné son aisance, elle a eu beaucoup de revers, Basile, tu le sais. Avant que tu ne la connaisses, elle ne comptait jamais. Très en veux-tu en voilà, très dispendieuse. Évidemment, depuis qu'on lui a supprimé la retraite des cadres, en tout cas, tu ne peux pas dire qu'elle exige de nous un loyer exorbitant. Elle ne tient compte que de la surface corrigée. Je connais une autre surface qui appartient en propre à belle-maman et que je corrigerai volontiers. Tu deviens grossier, Basile. Mais mon petit cyclamen, quand je pense qu'elle nous fait payer aussi l'eau, le savon, l'électricité, le gaz, alors que nous vivons de boîtes de conserve, que si nous mangeons chaud de temps à autre, c'est grâce à un réchaud, que nous risquons, toi et moi, ma poupée, d'attraper le scorbut, que... Basile ! Qu'il y ait entre ma mère et toi une antinomie corpusculaire, une scission des atomes, une fissure, c'est regrettable, mais enfin ce sont des choses qui arrivent. Permets-moi de souligner que ça ne simplifie pas ma vie. Ma petite caille, tu sais que pour toi, si mon père n'était pas mort, il aurait certainement joué aux cartes avec toi sous la tente. Il adorait les cartes. Vous auriez copiné comme deux soldats déserteurs, j'en suis sûr. Que veux-tu ? C'est ma mère qui est restée en vie, qui continue d'aller et venir, les grands magasins, les comités de bienfaisance. Tu es tout de même bien content de jouir de la salle de bain entre 6 et 7 heures du matin. Oui, entre 6 et 7, un bain glacé, le supplice de la baignoire. Si par surcroît t'es masochiste...
Mais, ma petite carpe, tu sais bien que si j'ai le malheur d'allumer le chauffe-eau, c'est comme si j'allumais le Vésuve. Je risque de réveiller Madame votre mère. Madame votre mère ne dort que du gauche. Madame votre mère retire chaque soir ses nerfs un à un et en fait une pelote qu'elle pose délicatement sur la table de nuit. Basile, mon grand, tu travailles trop. Toujours enfermé, toujours plié en deux, dans un tout petit cubage d'air.
Oui, mais tu es là. Tu es là, mon petit Rouget. Je te sens à travers la toile. Quand tu respires profondément, c'est comme le souffle d'un ange qui fait frémir les cordages. Oh, poète, petite puce. Tout de même, tu devrais ouvrir un peu de temps en temps, profiter du grand air du salon.
Ouvrons. Navires accostés, que les esclaves nus apportent à la mélasse.
Il sort la tête de la toile de tente. Grand gosse.
Voilà, respirons l'air du large.
Quelle confusion mentale. Qu'est-ce que ce serait si je n'étais pas toujours arrangé derrière ton dos? Basile, tu as encore mis mon soutien-gorge dans la bassine à frites. Tu n'es pas sérieux.
Qu'importe le sérieux, pourvu qu'on ait les mouettes.
Antoinette et moi, on va dans les bois. On connaît un coin où il y a des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois. C'est à qui des deux grandira le mieux? Quand on sera grand, on sera des amants. On s'embrassera comme Lise et Nicolas. Mais il faut pousser pour bien s'emboîter et pas avoir peur de perdre sa pudeur. On sera des amants, des bouches, des bras, des regards flambants, des etc. Mais il faut grandir, on est trop petit. C'est comme un navire qui serait pas bâti. Antoinette et moi, on va dans les bois pour grandir ensemble un peu chaque fois. Elle me tire les jambes, je lui tire les bras. Elle me tire la langue, je lui tire les doigts. À force de tirer, de nous faire craquer, on doit bien gagner un peu de chaque côté. Parfois on se met nu quand il y a du soleil. Ça frappe la vue qu'on n'est pas pareil. Mais on est bien fait pour se délecter. Sa peau c'est du lait, moi je suis du thé. Et quand on se dort tous les deux comme ça, je sens très très fort que je ne mourrai pas. Antoinette et moi, on va dans les bois. On connaît un coin où il y a que des lapins. Antoinette et moi, on va dans les bois. C'est à qui des deux grandira le mieux.
Faisons à nouveau des tours par la poésie. Dans ce texte expiègle, toujours extrait des Innocentines, René de Obaldia fait un sort à cette obsession des garçons pour une certaine partie de leur anatomie. Le zizi perpétuel. Mon petit frère a un zizi, mais moi, Zaza, je n'en ai pas. Mon petit frère a un zizi, toujours placé au bon endroit, mais moi, Zaza, je n'en ai pas. Pourquoi ? Il me le montre sans répit, pour me donner du dépit, pour se donner un air gaulois, pour m'enfoncer dans le désarroi. Il me le sort en catimini, en tapis rouge, en tapis noir. Il me le fait toucher du doigt, c'est assez doux, comme caoutchouc. Mais il n'y a pas de quoi perdre la foi. Et moi, je me dis, pourquoi mon frère a un zizi? Dans quel tiroir se font les lois? Le jour et la nuit, son zizi le suit, toujours placé au bon endroit. Et moi, Zaza, dans les draps blancs, j'ai beau me tâter souvent, à la place où ça aurait dû être, que du vent, que du vent. Tu verras, Zaza, avec mon zizi, un jour je serai le roi, qui dit, tout en lui collant autour du sparadrap. À la fin, c'est énervant de manquer obstinément de cette sorte d'émolument. Si j'ai le regard zoulou, si j'ai le nombril sournois, si je fais des coups en dessous, si je pousse en guingois, si je ne fais pas mon poids, faut pas me demander pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi? Découvrons à présent un extrait de Genousie, célèbre pièce onirique, qui interroge le règne des apparences et dans laquelle il brocarde les mondains.
Genousie, c'est le nom d'un pays imaginaire. Disons la Genousie, comme on dit la Pologne, la Hollande, la France, etc.
Dont vous avez inventé également la langue.
Eh bien, dont j'ai forgé la langue, oui.
Non. Qui n'intervient que partiellement dans la pièce.
Oui, oui, Dieu soit loué, il n'y a qu'un personnage, il n'y a que l'héroïne qui ne parle que cette langue. L'histoire de Genousie, c'est au fond une singulière histoire d'amour.
La pièce fut créée en 1960 sous la direction de Jean Villard, avec Jean Rochefort dans le rôle de Philippe Assingor. Nous sommes ici dans le salon d'un châtelain, le dramaturge Assingor, marié à une femme venue du lointain pays de Genousie. Clin d'œil à la passion de l'auteur pour les genoux des femmes. Arrive Christian Garcia, un poète, pris d'un coup de foudre immédiat et réciproque pour la Genousienne, dont la langue et les mœurs se révéleront étranges, mais c'est une autre histoire. Voyons avec quel humour et une pointe d'autodérision l'auteur moque le poète et le dramaturge dans cette risible joute pseudo-intellectuelle. Assingor. Il me semble avoir lu quelque chose de vous le mois dernier dans une revue. Voyons, les temps difficiles, Christian. Les temps difficiles, en effet. J'y ai publié un essai sur Borgnole. C'est cela. Vous aimez Borgnole? Un esprit remarquable. Oh, un mélange singulier à la fois de réalisme et d'imaginaire. Il y a chez lui un sens de l'incarnation, ce que nous pourrions nommer un appétit de l'instance, qui n'est d'ailleurs pas sans s'apparenter à Potin. Oui, peut-être, mais un Potin qui n'aurait pas écrit Le cancer du vide. Sans doute, mais qui a quand même écrit Félix Culpa. Félix Culpa, bien sûr. Cependant, malgré certains rapports, certaines identités des contraires, si je puis m'exprimer de la sorte, car nous avons affaire là à deux types essentiellement opposés, Borgnole est le produit, l'aboutissement d'une race, d'une noblesse, les deux Borgnole, n'oublions pas. Oh, 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 ah oui, ah oui. Race fatiguée, je vous l'accorde, mais qui, par là même, cherche à échapper à cette fatigue, à cette lassitude par une recherche de l'absolu, de l'au-delà. Potin, lui, exprime les forces vives du moment, les forces populaires. Jamais Potin n'aurait pu écrire les masques funèbres, par exemple. Hé hé, j'en suis pas si sûr que vous, mon jeune ami. Je n'en mettrai pas ma main au feu. Enfin, il me semble... Vous savez que ma femme le connaît très bien. Ah oui, qui cela, Potin? Non, Borgnole, c'est elle qui l'a reçu lorsqu'il est venu en Genousie. Votre femme s'intéresse à toutes ces questions? À toutes ces questions? Quelles questions? Je veux dire aux idées de Borgnole, de Potin, de Schopenhauer. Si elle s'y intéresse, mais c'est sa vie! Elle a fait de l'intelligence son climat, sa respiration. Ce qui n'empêche pas de se livrer parfois aux pures bêtises. Dieu merci, Irène est une femme exceptionnelle. Oh, je le croirais volontiers. Elle m'aide considérablement dans mon travail. Sans Irène, je suis un homme perdu, une enveloppe vide et sans adresse. C'est très banal ce que je vous dis là, vous devez rire. Ah non, je ne ris pas du tout. Je me mets à votre place. Vous êtes généreux. Pas spécialement, non. Ne croyez pas cela. Quittons-nous en poésie, le genre favori de Baldia, avec la lecture de Nocturne, extrait de son recueil Innocentine. Dans ce texte adressé à l'enfant qui sommeille en nous, le poète insatiable voyageur nous invite à glisser au pays des songes dans toutes les langues. Bye bye mamie, bye bye papi, arrivederci. La nuit s'approche au grand galop. C'est cuit, je vais aller au dodo. Hasta luego. Manche à balai, manche à gigot, une puce me gratte le dos. Demain matin, mon drap blanc aura des taches de sang. À Rome, un pape baille, éternellement debout. À l'autre bout, un bébé braille. Bye bye. Cher petit géniteur, voici l'heure où c'est l'heure. Portez-vous bien, ne cassez rien. Dites pas du mal de votre voisin. Moi, je vais me plonger dans les nébuleuses, dans de merveilleuses visions, et vous, dans la télévision. Quand je vais fermer les yeux, vous serez encore plus vieux. Les nouvelles du monde entier vous feront comme un dentier, et moi, je serai plus belle, au creux de mon oreiller, que la princesse Isabelle, quand elle alla se noyer. Ciao papa Cipollata, mamma mia dolorosa, ciao wang wang, sapristi, je parle toutes les langues, par la grâce du Saint-Esprit. Auf Wiedersehen, mes chers petits 13 œufs à la douzaine, mes deux petits bols de riz, vous m'avez donné la nuit. Un sou, c'est un sou, le Pérou, c'est pas le Pérou, je vous enverrai une carte. Gute Nacht, gute Nacht.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Julie Garraud à la technique. Merci à eux, merci aussi à Fanny Leroy, Estelle Gap et Claire Tesser qui ont préparé cette émission. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.